Bonsoir tout le monde, ça va bien?
Bonsoir.
Ben, c'est bien. On dit bonjour à Marie-Claire, on dit bonjour à
Bonjour.
Philippe,
Bonjour.
on dit bonjour à Elisabeth Bonnet aussi,
Bonjour.
à Charef, à
Bonjour.
Liliane, à Marc, enfin à tous nos frères et sœurs, ils sont nombreux, on ne peut pas dire bonjour à tout le monde, mais voilà, on sait que vous êtes là et même jusqu'à l'autre bout du monde, on vous salue dans le nom de Jésus, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette bonne soirée autour de ta parole. Merci de nous éclairer et d'ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions bien les choses. Merci Jésus. Amen. Alors voilà, je voudrais quand même commencer par dire, voilà, l'enlèvement n'a pas eu lieu. D'accord? Alors, j'ai regardé une vidéo de M. Inierski qui dit, oui, vous vous moquez de moi, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Oui, les moqueurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ah bon? Il y a moqueur et moqueur. Élie s'est moqué des prophètes de Baal, il s'est moqué des faux prophètes quand ce qu'ils avaient annoncé, ce qu'ils disaient n'est pas arrivé. Et bien sûr qu'on ne doit pas se moquer d'un serviteur de Dieu, ça c'est péché, mais se moquer de faux serviteurs de Dieu, ça on a le droit. Ha ha ha, monsieur Claude Inierski, ha ha ha. L'autre prophète qui a prophétisé qu'on allait tous mourir avant la fin de l'été. Faux prophète, on se moque de vous. Vous ne nous faites pas peur, vous ne nous impressionnez pas. Il faut le dire. Élie, vous savez, ne pas le dire, c'est être un religieux. Nya, 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 nya. Vous voyez, dégoulinant, de bons sentiments, ridicule, stupide. Il faut prendre position. Il faut prendre position. Alors, oui, je me moque. Voilà. Et vous?
Oui.
Amen. On se moque. Non, mais c'est quoi ce cirque? Annoncer que Jésus revient le 14, et bien non, après c'est le 15, après c'est le 22, je ne sais plus quoi, le 20. En fait, ça changeait de date sans arrêt. Non, mais c'est quoi ça? Non, 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 non. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Donc, on ne les accepte pas et on se moque, comme Élie se moquait des faux prophètes. Ha ha ha, mais criez plus fort, votre Dieu est en train de dormir ou il fait un voyage, peut-être que. Ou alors il se trompe dans les calculs, c'est pas un bon comptable, on va lui envoyer Stéphane, c'est un bon comptable. Hein. Non, mais c'est incroyable. Voilà, je voulais commencer par ça. On n'est pas des efféminés, on est des gens clairs, nets, justes. Et je ne dis pas ça maintenant, avant déjà je me moquais, avant, parce que je savais que c'était faux. Vous n'avez qu'à écouter mes prédications d'avant. Et vous verrez que j'ai toujours dit c'est faux, ça n'arrivera pas. Et même Michou et moi, on a bravé tout ça en prenant l'avion justement les derniers jours de l'été. On s'est dit comme ça, on n'a pas peur de mourir, c'est faux, c'est des fausses prophéties. On n'a pas peur des faux prophètes. Bien, maintenant on va lire Jean 14, 21 à 28. Ah, parce qu'alors, ce qui est la parole de Dieu, ça ne les écoute pas, hein. Les bêtises de ces gens-là, alors là, on court en foule. Hein. Jean 14, 21, 28. Ayant parlé ainsi, donc Jésus a parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui, ayant trempé le morceau, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient là à table ne comprirent pourquoi il lui disait cela. Amen. Un jour? Oui? C'est pas Jean? Alors c'est Jean 13, alors oui, vous avez raison, c'est Jean 13, 21, 28. Un jour, il y a un vieux sage qui a invité des amis, c'est un homme très vieux, perclus de rhumatisme, dans les genoux, dans les mains, enfin il avait plein de douleurs, et après le repas, malgré ses douleurs aux jambes, aux mains, tout ça, il s'est levé et il a saisi une carafe d'eau qui était très lourde et il a voulu servir de l'eau à ses amis qui étaient là et tous ont refusé, tous ont dit non, sauf un qui lui a même demandé que le vieux sage remplisse son verre à ras-bord. Les autres étaient offusqués, ils n'ont rien dit, mais ils étaient offusqués et ils pensaient « Mais nous sommes complètement indignes de recevoir cette eau de la main souffrante de ce vieux sage et celui qui l'a reçue, c'est vraiment le seul parmi nous qui ne comprend rien à rien, c'est honteux, ce vieux sage a fait un immense sacrifice en portant cette lourde carafe, vous voyez. » Et le vieux sage est retourné s'asseoir, attendu quelques secondes, et il a dit « Vous vous prenez pour des saints par rapport à lui, mais vous n'avez pas eu l'humilité de recevoir, et moi je n'ai pas eu la joie de vous donner. » Vous voyez ? Lui, il a simplement permis que le bien se manifeste. Mais ça a été mal interprété. Ça a été mal interprété. Le bien, le mal. Voilà quelques temps que je vous enseigne au sujet du bien et du mal. Le bien et le mal. Ça devient de plus en plus difficile de discerner. Le bien, le mal, nous sommes dans un temps de confusion. Pensez-y. Abraham, on voit qu'il aimait les étrangers. Et Dieu était content avec Abraham. Par contre, Élie, bon, il n'aimait pas trop les étrangers, hein. Eh bien, Dieu était content avec Élie. David, il était fier de tout ce qu'il faisait, et Dieu était très content. Et puis vous aviez le publicain qui avait honte de ce qu'il faisait, et puis Dieu était très content aussi. Jean-Baptiste, il prêchait dans un désert, et Dieu était très content. Paul, lui, se rendait dans les grandes villes, et Dieu était très content. Alors, comment pourrais-je vous dire comment réjouir le cœur du Tout-Puissant ? C'est pas facile. C'est pas facile. Faites ce que votre cœur vous commande avec une bonne intention et Dieu sera content. Voilà ce que je peux vous dire. Que faire ? Mardi, nous étions à Paris avec Michou. Et on a vu une vieille femme qui mendiait. C'était pathétique. Et tout le monde passait à côté d'elle, et puis on ne donnait rien. Et puis nous aussi, on a passé, et puis on a fait quoi, 10, 15, 20 mètres. Et puis j'étais repris dans mon cœur, j'ai dit, non, cette pauvre femme, mais quelle horreur, c'est affreux. J'ai mis la main dans ma poche, et puis j'ai sorti un billet, et puis je suis revenu sur mes pas, puis je lui ai donné le billet. Et je crois que Dieu était content. D'autres fois, je dis non aux mendiants. Même des fois, ça m'arrive de leur dire, mais va bosser. Et je crois que là aussi, Dieu est content. Je connaissais un serviteur de Dieu autrefois. Je ne sais pas ce qu'il devient maintenant, mais il avait toujours des pièces dans sa poche, dans ses poches. Et puis, chaque fois qu'il rencontrait un mendiant, il lui donnait quelque chose. Vous voyez de qui je veux parler, je pense, hein, pour les vieux et les anciens. Et puis moi, j'étais très impressionné par ça. Je dis, ben moi, je veux faire pareil. Je trouve que c'est très beau et je veux faire pareil. Et puis d'ailleurs, la Bible dit, donne à celui qui demande. Hein? Bon, alors c'était bien. Et puis avec le temps, avec l'expérience, j'ai compris, vous allez trouver ça bizarre, que mon pantalon, il a deux poches. Alors j'ai donné à mes deux poches un nom particulier. Et je ne mets de l'argent que dans ma poche gauche. Vous voulez connaître le nom de ma poche droite ? Ma poche droite, elle se nomme « Je ne suis rien, je ne suis que poussière ». Et le nom de ma poche gauche, c'est « Je suis la manifestation de Dieu sur terre ». Vous voyez ? Quand je vois la misère, quand je vois l'injustice, eh bien, je mets la main dans ma poche gauche et puis j'aide mon prochain. Par contre, quand je vois la paresse, quand je vois l'indolence et la bêtise, je mets ma main dans la poche droite et je constate qu'il n'y a rien à donner. Vous voyez, nous devons mettre de l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Le bien, le mal, l'équilibre. Et c'est dans les épreuves qu'on grandit, ou qu'on rapetisse. Quand on passe par une épreuve, on peut régresser, rapetisser, perdre quelque chose, perdre notre joie, perdre notre foi, perdre... Ou alors on peut grandir. Moi, je veux utiliser l'épreuve que nous traversons actuellement pour grandir. Et je prie que vous aussi, vous soyez dans cette position-là. Les grandes difficultés ne sont pas mauvaises. Tout dépend comment on les traverse. Pensez à Jésus ce soir, là, à table, demandant que le délateur aille commettre son péché. Non mais, c'est ça qui s'est passé autour de cette table. Ce que tu as à faire, fais-le vite, fais-le promptement. Pourquoi? Alors les théologiens vont dire, oui mais c'est pas à Judas qui l'a dit, c'est à Satan qui était entré en lui. Ou ils vont vous dire, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Voilà, ça c'est les théologiens. Moi je vois Jésus qui dit à Judas, ce que tu as à faire, va le faire, dépêche-toi. Mais pourquoi Jésus a-t-il fait ça? En fait, le traître, c'était une victime aussi bien que Jésus. On ne peut pas faire autrement que de le faire. C'était écrit. Le mal devait se manifester, le mal devait jouer son rôle afin que le bien puisse finalement l'emporter. Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu la trahison, ben, il n'y aurait pas eu la croix. S'il n'y avait pas eu la croix, nous ne serions pas sauvés, nous serions encore dans nos péchés et l'Écriture ne se serait pas accomplie. Pour actualiser la chose, les dissidents me reprochent d'avoir pris la décision de céder ma place de pasteur à un autre. Certains d'entre eux m'ont dit, m'ont hurlé, que c'était une œuvre de destruction que j'avais fait là, que j'étais l'instrument du mal. C'est une interprétation de la chose. En fait, c'était là un acte d'humilité que j'offrais à Dieu et à la communauté. Va et fais ce que tu as à faire, fais-le promptement. Judas aurait pu dire non. Mais il n'a pas dit non. Il est allé faire. Quand j'ai dit « je cède ma place de pasteur », ils auraient pu dire « non, attends, attends, bon, il y a quelques problèmes, on va les régler, attends, non ». Ils ne l'ont pas fait. Pas facile, n'est-ce pas? Pas facile. Le mal passe partout, il rôde autour de tous. Et pourquoi Judas a-t-il obéi à Jésus ce soir-là? On dit toujours qu'il faut obéir à Jésus, hein? Pourquoi il n'a pas discerné le bien, le mal? Et puis Pierre, quand il s'oppose à Jésus, disant « Non, jamais, je ne permettrai ça, qu'on t'arrête et que tu sois tué, non, jamais. » Et Jésus qui lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu parles comme un homme. » L'intention de Pierre était bonne. Oui, elle était bonne, selon lui. Mais elle n'était pas bonne selon Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, le bien, le mal. Plus on avance vers le retour de Jésus, plus les choses s'éclairent, plus les choses deviennent pointues, et plus il ne nous faut pas simplement une communion avec Dieu, genre dans l'Église, louer le Seigneur et toutes ces choses-là, mais une intimité avec Dieu. Sans cela, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est ce que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Certains pensent faire le bien et ils font le mal, en pensant sincèrement faire le bien. Ils pensent que nous sommes des pourris, alors que nous ne le sommes pas. Déjà, l'apôtre Paul dit, on me juge de ceci, on me juge de cela, etc. Et c'est tout le contraire. Le mal, il rôde et il aime prendre les gens au dépourvu. Judas, ça faisait 3 ans et demi qu'il vivait avec Jésus. En fait, il vivait au paradis avec Jésus. Mais il ne s'en rendait pas compte. Il ne s'en rendait pas compte. Il n'a pas reconnu qu'il était... On ne pouvait pas être plus près du paradis qu'avec Jésus. Il voyait qu'avec ses yeux et non pas avec les yeux de Dieu. Alors, sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il est allé chercher la souffrance. Et c'est ça, quand on n'a pas d'intimité avec Dieu, qu'est-ce qu'on va chercher ? Ben, la souffrance. Certains pourraient dire, mais c'est scandaleux, Jésus a incité Judas à faire le mal. On pourrait le dire. Mais pendant 3 ans et demi, Jésus s'était efforcé de le bénir, lui et les autres. Mais il n'a rien entendu, ce pauvre Judas. Il devait se dire, encore une journée où il va nous gaver. Il n'a rien entendu. Et puis, il volait Dieu. Il volait, il piquait dans la caisse. Pendant toutes ces années, Jésus a tenté d'inculquer le bien dans le cœur de Judas, jusqu'au jour où il a compris que l'heure était venue d'utiliser la poche droite. Je ne suis que poussière, je suis mortel, je ne suis qu'un homme. Cet homme, Dieu l'avait envoyé pour mourir à la croix, et il désigna Judas pour que le mal qui devait arriver arrive. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Jésus a agi ainsi parce que le Père le lui a demandé. Parce qu'il avait une intimité avec le Père. Il savait, lui. Ce qui était dans le cœur de Judas, c'était l'amour de l'argent. C'était un pingre. C'était un profiteur. Près de ses sous, et aussi près de celui, près de ceux qui ne lui appartenaient pas, puisqu'il piquait dans la caisse. C'est écrit, hein. Alors vous voyez, ceux qui aiment en espérant être payés en retour, ils perdent leur temps et leur âme. Aimer en pensant qu'on va être payé en retour, c'est une hérésie. L'argent, c'est une gloire déchue qui n'apporte pas le bien par lui-même. Ça dépend du cœur de celui qui le tient. Et Judas, ben, il a fini par perdre. Judas ne se sentait pas repris dans son cœur quand il volait dans la caisse, il justifiait son acte. Il ne faut pas me dire qu'il se sentait coupable. Après, il allait prier pour les malades, il imposait les mains aux malades, il chassait les démons, il se sentait bien dans sa peau, pas de problème. Quand il volait dans la caisse, il trouvait normal de se servir. Il y a suffisamment de pognon, personne ne va s'en rendre compte. Il a plein de pognon, Jésus. Un peu plus, un peu moins, bon, fais rien voir, et puis voilà, puis j'ai bien le droit, moi aussi, quand même, hein. Chacun de ces vols l'immunisait, le préparait à obéir à l'ordre fatal de Jésus. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Et il a obéi. Obéir, le bien et le mal, c'est pas simple, hein. Une autre histoire. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon ? D'un côté, il y a Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, puis d'un autre côté, il endurcit le cœur de Pharaon. Pourquoi ? À quoi il joue Dieu ? Est-ce que c'est bien, ce jeu ? Il a endurci le cœur de Pharaon parce que Pharaon se prenait lui-même déjà pour un dieu. Il avait un bon terrain pour faire ce rôle-là. Vous voyez ? Est-ce bien de la part de Dieu d'endurcir le cœur de Pharaon ? Est-ce bien de la part de Jésus de dire à Judas d'aller le trahir ? Pas facile de répondre avec une doctrine. Alors on chante « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Pas facile, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, et surtout vous, mes frères, si une femme sublime entrait dans votre chambre cette nuit, est-ce que vous réussiriez à penser qu'elle est moche et qu'elle n'est pas séduisante? Non, bien sûr. Par contre, vous arriveriez à vous contrôler. Si je vous offrais de l'argent pour quitter la communauté dont je suis le pasteur, est-ce que vous réussiriez à regarder cet argent comme si c'était des cailloux? Non, bien sûr. Mais vous avez déjà fait la preuve que vous pouvez vous contrôler, que ce n'est pas une question d'argent. Et si deux frères venaient vous voir, l'un qui vous déteste et l'autre qui vous aime, est-ce que vous réussiriez à les traiter sur le même pied? Je vous le dis, même si cela doit vous faire souffrir, c'est ce que vous devriez faire. Le bien et le mal. Parce que le bien et le mal luttent pour vous conquérir. Toutes ces petites histoires-là, c'est rien que pour ça, pour vous conquérir. Et le bien et le mal le fait avec tous les êtres humains, tout le monde. Et même avec Jésus, puisque Jésus était parfaitement homme au désert, et puis ensuite tout au long de sa vie, la Bible nous dit que le diable attendait une heure favorable pour le tenter. Mais Jésus a gagné. Et nous montre par là que les siens peuvent gagner. Tout est une question de contrôle, de choix d'amour juste. Et l'amour juste se découvre dans l'intimité avec Dieu et dans rien d'autre, et surtout pas dans des doctrines. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là ce soir? Il faut que vous ayez une intimité avec Dieu, des moments que vous passez seul avec Dieu, et que vous l'écoutez, et que vous cherchez à savoir ce qu'il veut, ce qu'il pense. Il a dit, vous n'êtes pas mes serviteurs, maintenant je vous appelle ami parce que je vous mets au courant de tout. Il veut faire la même chose avec nous, la connaissance augmente à la fin des temps et il veut nous faire connaître de plus en plus quelle est sa volonté. Mais pour cela, il faut de l'humilité, il faut prendre le temps de passer des moments dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Merci Jésus de m'aider et d'aider mes frères et sœurs et tous ceux qui écoutent ce message enregistré et qui passe sur Révélation Bible. Merci Seigneur Jésus. Merci aussi pour tous ceux qui écoutent ce message à la radio. Que ton nom soit béni, mon Dieu, pour tout cela. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen.